Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, comme tous les jours à cette heure-ci, RFI vous propose de commenter l'actualité et dans 30 minutes, comme tous les matins, nous lancerons un débat et nous parlerons tout à l'heure du Burkina Faso où 3 mois quasiment jour pour jour après la chute de Blaise Compaoré, eh bien les autorités de la transition sont confrontées aux premières contestations sociales. Une grève générale de 48 heures a fortement paralysé le pays la semaine dernière. Les travailleurs réclament de meilleures conditions de travail, des augmentations de salaire et une baisse des prix de l'essence. Alors pour l'instant, le gouvernement n'a pris aucun engagement, mais il assure avoir entendu les grévistes. Alors quelle doit être justement la réponse des autorités de la transition 3 mois après le changement de régime? Que vous inspire la gestion du Burkina Faso, tant sur le plan économique, social que politique, puisque le pays a connu sa première crise politique de l'après Blaise Compaoré il y a à peine 2 semaines. On va en parler ensemble, vous êtes nombreux au standard, nombreux également à commenter cette actualité sur la page Facebook de l'émission, la page officielle RFI Appel sur l'actualité. Sinon, pour vous exprimer de vive voix, un seul numéro, vous composez le 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France. Mais d'abord, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Vous connaissez le principe, hein, s'il vous manque des clés pour décrypter certains sujets que nous traitons à l'antenne, et bien surtout, n'hésitez pas, vous nous appelez, et vous pouvez d'ailleurs le faire tout au long de la journée puisque le standard est ouvert. La première question de la semaine nous vient de Ségou. Ségou, c'est au Mali, et nous avons en ligne Mohamed. Bonjour Mohamed.
Ok, bonjour Juan, bonjour à tous les éditeurs de RFI.
Alors, vous avez une question concernant le Sénégal et une éventuelle livraison de drones américains.
Effectivement. J'ai appris sur des sites sénégalais et maliens l'octroi des 3 drones au Sénégal par les États-Unis après la visite du président Obama en juin 2013. Donc, ma question est la suivante. Cette information est-elle vérifiée? Et pourquoi ne l'apprend-on que maintenant?
Oui.
Et deuxième question, pourquoi ces armements au Sénégal et pourtant d'autres pays plus touchés au Sahel par le terrorisme en ont besoin aujourd'hui?
Alors c'est vrai que le journal Le Quotidien affirme que peu avant la visite de Barack Obama à Dakar, c'était, vous le disiez Mohamed, en juin 2013, eh bien l'armée sénégalaise s'est vue livrer 2 appareils de combat et un avion de surveillance. Alors cette information a ensuite été reprise par plusieurs sites sénégalais, une information évidemment qui intrigue puisqu'elle n'est révélée que depuis quelques jours, on apprend ça 1 an et demi après les faits. On va tenter d'y voir plus clair avec Coralie Pierret. Bonjour Coralie.
Bonjour.
Merci.
Bonjour à tous.
Merci d'être en direct de Dakar. Vous êtes l'une des correspondantes d'RFI au Sénégal. De quels éléments disposez-vous? Que peut-on dire? Est-ce que c'est de l'information ou est-ce que c'est de l'intox?
Alors, effectivement, lorsqu'on s'intéresse de plus près à ce sujet, on apprend que l'armée sénégalaise a bien acquis des drones et des hélicoptères de combat. Mais ce que l'on nous dit côté sénégalais, c'est que ces équipements militaires ont été acquis sur fonds propres, c'est-à-dire que ce serait un investissement de l'armée sénégalaise et non pas un don des États-Unis qui aurait été fait dans le cadre de la coopération militaire entre les deux pays.
Et ces nouveaux équipements, ils servent à quoi? À lutter contre le terrorisme dans la région ou pas?
Alors, lutte contre le terrorisme, oui, mais pas seulement, répond l'armée. Ces hélicoptères et ces drones servent à toutes sortes de missions, de repérage, de surveillance, par exemple. Hein. Ils sont là, je cite, pour renforcer les capacités militaires sénégalaises, explique le porte-parole de l'armée. Par contre, à la question de savoir quand ces nouveaux équipements ont été acquis et où ces équipements sont stationnés, sont-ils à Ziguinchor pour surveiller le MSDC, le mouvement rebelle de Casamance, comme cela avait été affirmé dans l'article de presse? On préfère ne pas se prononcer côté sénégalais.
Ouais, en tout cas, ce qu'on peut dire, Coralie Pierret, c'est que les Américains sont quand même très présents au Sénégal.
Effectivement, hein, par exemple, l'armée américaine a organisé il y a environ 2 semaines un sommet des chefs d'état-major africains à Dakar. Alors l'objectif, c'était de rapprocher, de coordonner les armées de terre africaines, confrontées, comme chacun le sait, à de nombreuses attaques, hein, en Mali ou au Nigeria par exemple. Une réunion chapeautée par le général Cherguey, qui est le chef d'état-major sénégalais, et le général Darrell Williams, qui est le chef d'état-major de l'armée américaine pour l'Afrique. Daryl Williams, qui a d'ailleurs rappelé à cette occasion que 3000 soldats américains sont présents partout sur le continent et que l'armée américaine joue un rôle d'appui aux armées locales dans tous les pays africains. Et plus précisément, entre les deux pays, le Sénégal et les États-Unis, on peut rappeler l'épisode du corridor aérien au mois d'octobre dernier, lorsque l'aéroport militaire de Wakam à Dakar avait servi de base arrière logistique à l'armée américaine mobilisée dans les pays touchés par Ebola. Cela avait été confirmé d'ailleurs par le général Stephen Hummer, adjoint au commandant pour les opérations au sein d'Africom, le commandement des États-Unis pour l'Afrique. Nous connaissons bien le Sénégal, avait-il affirmé à ce moment-là. Autant d'indices qui montrent que les armées sénégalaises et américaines ont des liens étroits. Et selon un spécialiste des États-Unis à Dakar, avec le nouveau contexte dans la sous-région, la coopération militaire entre les deux pays a été amenée à s'accentuer ces dernières années, en particulier en matière de renseignement.
Voilà, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que l'armée sénégalaise a bien acquis des drones et des hélicoptères de combat, mais il ne s'agit pas d'un cadeau des États-Unis, mais d'un achat de l'armée sénégalaise sur ses fonds propres. Merci beaucoup, Coralie Pierret. On s'excuse, le réseau téléphone avec Dakar n'était pas très bon, mais on a compris l'essentiel, évidemment. Mohamed, bonne journée à Ségou, où il est 8h17. 33 9 693 693 70, ce sont toutes vos questions. On va s'intéresser au championnat anglais, puisque Rémi a des questions sur ce championnat de football britannique. Vous êtes à Lomé, Rémi, bonjour.
Bonjour, monsieur Wan.
Bienvenue, on vous écoute.
Merci de pouvoir me donner la parole. Justement, j'ai appris sur la radio mondiale, la radio RFI, que dans le championnat anglais, le droit de télévision cette année est à 7 milliards d'euros, ce qui est inédit, et j'ai quelques préoccupations. Il s'agit de voir comment fonctionne l'attribution des droits de télé dans le championnat anglais.
Oui. Et votre deuxième?
Quelle incidence cela peut-il avoir pour les clubs engagés dans les différents championnats anglais?
Ah, vous avez dit 7 milliards d'euros, vous avez bien entendu, hein, c'est une somme faramineuse, c'est cette somme-là que vont devoir débourser les médias pour diffuser le championnat anglais, alors non pas cette année, mais cette somme sera déboursée entre 2016 et 2019. Étienne Moati est avec nous, bonjour Étienne Moati.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste du football anglais, journaliste au quotidien sportif L'Équipe. 7 milliards d'euros sur 3 ans, on peut le dire, le championnat anglais est de loin le plus cher d'Europe, évidemment, mais l'un des plus chers du monde. Comment explique-t-on que les droits télé de la Première Ligue ne cessent d'exploser?
Alors, à ces 7 milliards d'euros, donc entre 2016 et 2019, comme vous l'avez dit, il faut aussi ajouter 1 milliard d'euros par an qui correspond à ce que versent les chaînes étrangères donc au championnat d'Angleterre. C'est-à-dire que les 7 milliards d'euros, ça concerne les chaînes anglaises pour la diffusion en Angleterre du championnat britannique, mais à l'étranger, ils reçoivent aussi 1 milliard d'euros par an, ce qui veut dire que la somme globale tourne plus autour de 3 milliards et demi d'euros par an pour le foot anglais. Donc c'est une somme absolument colossale. S'ils y parviennent, c'est parce que d'abord c'est un championnat très intéressant, très bien organisé, et avec un programme marketing extrêmement bien établi. Il faut savoir que les chaînes anglaises donc sont absolument friandes donc évidemment de foot anglais, comme toutes les chaînes mondiales, mais aussi parce qu'on a saucissonné un petit peu ce championnat, et ils ont été les premiers à le faire, c'est-à-dire que vous avez des matchs qui commencent le samedi midi et qui se terminent le lundi soir. Et donc vous pouvez avoir quasiment tous les matchs visibles donc sur des chaînes de télévision. Ils ont été les premiers à le faire et ça permet évidemment aux chaînes de télé de pouvoir avoir donc des retransmissions sans avoir de concurrence sur d'autres matchs.
Ouais, mais à partir de 2016, les chaînes britanniques, en l'occurrence Sky et BT, vont diffuser donc ces matchs-là. Chaque match représente quand même 10 millions d'euros. On s'y retrouve avec une telle dépense quand on est diffuseur en Grande-Bretagne?
Bah, il faut le croire, parce que je pense pas que ce soit Sky ou BT sont des philanthropes. Donc s'ils dépensent ces sommes-là, c'est qu'ils ont la quasi-certitude de rentrer dans leurs investissements. Il faut savoir donc qu'il y a une concurrence féroce en Angleterre sur le marché des chaînes payantes. Vous avez Sky qui est présent depuis assez longtemps, mais vous avez BT donc qui est un nouveau venu. BT c'est rien d'autre que British Telecom, l'ancien opérateur donc national anglais qui s'est mis à la télévision et qui a des moyens extrêmement importants pour concurrencer Sky. Donc il y a une concurrence. Quand il y a une concurrence, les prix montent. On le connaît sur n'importe quel type de marché, sur la télévision et sur le football comme sur tous les autres. C'est ce qui explique que les prix montent à ce point-là. Et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que les abonnements aux chaînes sportives anglaises sont extrêmement élevés. Quand on ceux qui se plaignent aujourd'hui de devoir payer 30 euros pour avoir Canal+, ou 12 euros pour avoir Bein Sport en France, franchement, ça fait sourire les téléspectateurs anglais, parce que eux, ça tourne autour de 80 euros donc par mois pour pouvoir recevoir les matchs de foot.
Ouais. Les répercussions, en tout cas pour les clubs, sont très positives, puisque cette manne vient combler, renforcer davantage les caisses du championnat anglais.
Ah oui, quand on sait que le dernier actuellement, hein, avant l'arrivée des futurs contrats dont on vient de parler, quand on sait que le dernier du championnat d'Angleterre touche deux fois plus que le premier du championnat de France, par exemple le Paris Saint-Germain en l'occurrence qui était champion de France la saison dernière, on mesure l'écart qui nous sépare des clubs anglais, et donc à l'avenir ce sera un rapport de 1 à 3, c'est-à-dire que les clubs anglais toucheront 3 à 4 fois plus que nos clubs à nous, quand on sait déjà qu'on est largement décroché sur la scène européenne. Évidemment, donc les Anglais vont écraser l'Europe, ils vont nous écraser nous, mais ils vont aussi écraser les Italiens, les Espagnols ou les Allemands.
Merci beaucoup Étienne Moiti d'avoir été avec nous, confrère, journaliste au quotidien sportif L'Équipe et spécialiste du football anglais. Rémi, bonne journée à Lomé. On a beaucoup de questions concernant la vente du Rafale. Vous savez qu'après des années d'échecs, le fleuron de l'industrie militaire française a enfin trouvé un acheteur à l'étranger. Le contrat a été signé il y a tout juste une semaine avec l'Égypte. 24 avions, un contrat évalué à 5,2 milliards d'euros. Jean-Marc Tanguy est avec nous, bonjour. Vous êtes spécialiste des questions défense et notamment de l'aviation militaire, et vous animez un blog d'information sur la défense baptisé Le Mammouth. Première question, Amadou est avec nous, il nous appelle d'Orange, donc dans le sud de la France. Bonjour Amadou.
Bonjour Yann et bonjour à tous les auditeurs de la commune de Matoto à Conakry.
Très bien, vous êtes guinéen j'imagine, donc pour saluer cette commune de Conakry. On vous écoute, quelle est votre question?
Après des illusions, un premier contrat de vente de Rafale est signé avec l'Égypte. On sait que la France avait tant de difficultés à exporter le Rafale. Alors j'ai une question. Et pourquoi l'Égypte a-t-il besoin de Rafale et pourquoi si rapidement?
Ah, pourquoi si vite? C'est une très très bonne question, Jean-Marc Tanguy. C'est vrai que le premier rendez-vous entre le ministre français de la Défense et le président égyptien, c'était à la mi-septembre, et 4 mois plus tard, le contrat est signé. Comment expliquer une telle rapidité?
Bah d'abord, on peut rappeler que non seulement ça a été négocié rapidement, mais qu'en plus ce sera livré très rapidement, puisque les 3 premiers avions, en fait, doivent être livrés pour l'été. Rappelons que la date référence, c'est le mois de juillet, un mois avant l'inauguration du deuxième canal de Suez. Et ça, c'est la première urgence. Elle est symbolique. Il faut que le président Al-Sisi puisse en fait montrer sa puissance avec la présence de cette frégate multimission française et de ses rafales dans le ciel égyptien. Ça, c'est pour le symbole. Ensuite, il est évident que derrière tout ça, il y a aussi des éléments géostratégiques. Ouais. Il suffit de regarder une carte, de regarder à l'ouest, au sud. On n'est pas dans une zone qui est très stable. Notamment, on l'a vu la semaine dernière avec ces chrétiens coptes qui ont été assassinés
en Liban.
Par un groupe qui se réclamait de Daesh. Donc on comprend l'instabilité qu'il y a à l'ouest et depuis des mois en Libye. Et donc l'Égypte a aussi besoin de stabiliser son environnement, ses frontières. Il y a plus de 2500 kilomètres de frontières terrestres, de côtes. Donc pour tout ça, il faut des outils qui soient performants, et c'est le cas pour cette frégate multimission ou ces rafales.
Alors on comprend bien donc la nécessité pour l'Égypte de s'équiper, de moderniser son armée de l'air. Habituellement, moi j'ai toujours entendu dire que l'Égypte coopérait essentiellement avec les États-Unis, son allié traditionnel. Ce n'est plus le cas, il y a une volonté de tourner le dos aux États-Unis?
Alors c'est vrai, vous avez la raison de le rappeler, même avant les États-Unis, souvenez-vous, le Nasser se fournissait essentiellement quand même auprès de l'URSS, d'où les MiG qui sont encore d'ailleurs présents dans l'inventaire égyptien. Vous avez aussi dans cet inventaire de chasseurs des avions d'origine chinoise, vous avez aussi des avions d'origine française, car il faut rappeler que dans les années 70, la France avait vendu 66 Mirage 5. Elle avait aussi vendu des avions d'entraînement, elle avait aussi vendu des hélicoptères Gazelle. Donc en fait, il y avait une tradition égyptienne de se fournir à droite, à gauche. Et aujourd'hui, c'est passé. En fait, je pense que l'élément déterminant aussi dans cette affaire, bon, par-delà le fait que le Rafale ou la FREMM sont des équipements performants, il y a aussi le fait que les États-Unis ont brutalement, il y a quelques mois, signifié aux Égyptiens qu'ils ne souhaitaient pas leur vendre plus d'armement qu'ils n'en avaient. Donc ça a été un argument déterminant pour choisir une technologie française et peut-être une diplomatie française qui est trouvée peut-être plus proche de ce qu'est aujourd'hui l'Égypte.
Ouais. D'autres questions, on va essayer d'y répondre assez rapidement. On a d'autres auditeurs, Jean-Marc Tanguy. Lamine, bonjour.
Bonjour Juan, et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
On vous écoute.
À ce même sujet, j'ai une seule question. Il s'agit de savoir comment l'Égypte va financer l'achat de tous ces appareils.
Donc tant que le pays traverse une crise économique, on peut s'interroger, Jean-Marc Tanguy, de la solvabilité de l'Égypte.
C'est vrai, en fait, pour autant, le financement va être assez classique. Le contrat pour le navire et les chasseurs doit entrer en vigueur par le premier versement dès le mois prochain. Donc la question tout à fait d'actualité en effet. L'Égypte va apporter 50% de la somme dont on parle, donc 5,2 milliards d'euros, et se fait prêter le reste par un pool de banques, d'ailleurs françaises. Le tout est garanti par la COFAS, vous savez, c'est ce système d'assurance français qui couvre ces contrats internationaux, donc c'est assez courant et pour tout dire assez classique.
Donc c'est une partie sera donc financée par des banques françaises, si je comprends bien, et si on peut, on va dire, schématiser, c'est un prêt évidemment. Et l'autre partie, vous dites que c'est la Grèce, pourtant certains experts citent l'Arabie Saoudite notamment, qui mettra certainement la main à la poche.
C'est l'Égypte, vous avez dit la Grèce.
Ah pardon, l'Égypte. Qui... L'Égypte, évidemment.
L'absus. Non, mais qui autofinance à peu près 50% de la somme.
Ouais. Autre question au standard. Mamadou, bonjour.
Bonjour, monsieur.
On vous écoute, soyez le bienvenu.
Bonjour, monsieur, bonjour à tous les auditeurs de Conakry.
Allez-y.
Je me demande pourquoi la France a eu du mal à vendre tous ces derniers Rafale.
Ouais, c'est vrai. Ah, si on me coupe le micro. C'est vrai que ça fait plus de 20 ans que le Rafale a vu le jour. Et cet avion qui est quand même présenté, Jean-Marc Tanguy, comme le meilleur avion de combat du monde, c'est ce que dit en tout cas le constructeur, le groupe Dassault, a énormément de mal à se vendre à l'étranger. Pourquoi ? Il est trop cher ? C'est le principal problème ou pas ?
Non, d'abord, bon, il faut rappeler que le Rafale est un avion assez récent. En fait, certes, le démonstrateur a volé en juillet 86, mais enfin, c'est un avion de combat qui est dans l'armée d'ailleurs française, que depuis le début des années 2000, il a été en fait proposé à l'exportation à partir de ce moment-là. Donc la réalité, c'est quand même que les ventes d'armes, c'est un acte très politique, à la fois pour le vendeur et pour l'acheteur. Et en France, seul l'État décide quelles étapes peuvent être démarchées pour ces ventes et pour quel type de produit. C'est très codifié.
Enfin, à chaque fois que le groupe Dassault et la France étaient en concurrence, on pense à la Corée du Sud, aux Pays-Bas, Singapour, Australie, Maroc, à chaque fois, ces pays-là ont privilégié un autre groupe que le groupe français.
Ben, vous avez tout à fait raison, et sauf le Maroc, dans la liste de pays que vous venez d'évoquer, et qui sont factuellement des pays où le Rafale était présenté, on n'avait jamais rien vendu. La France, l'industrie française n'avait jamais rien vendu. Donc y arriver avec un appareil de ce type-là, c'est sans doute peut-être pas la partie la plus simple. Donc en tant que tel, il faut voir déjà que les pays qui étaient ciblés n'étaient pas des acheteurs naturels de produits français. En Corée du Sud, comme vous le savez, on vend quand même pas beaucoup de choses.
Alors là, on pense maintenant au Qatar, on pense évidemment à l'Inde, puisque le ministre français de la Défense est arrivé en Inde. Il va essayer de décrocher un contrat, 126 appareils, mais enfin ça fait 3 ans que ça dure en même temps.
Alors la difficulté avec l'Inde, c'est qu'en fait, on va fabriquer ces Rafales sur place avec des composants indiens. Donc là, de ce fait-là, c'est comme finalement créer une deuxième chaîne d'assemblage, mais aussi de fabrication. Donc de ce fait-là, ça donne des négociations qui sont assez poussées. Or, personne n'est évidemment au cœur de ces négociations, si ce n'est évidemment une poignée de personnes Mais on imagine que c'est en effet très compliqué à régler.
On suivra ça. Merci beaucoup Jean-Marc Tanguy, spécialiste des questions défense et notamment de l'aviation militaire. Reste avec nous dans un instant le journal. Et on revient, c'est promis, dans 10 minutes pour notre débat sur le Burkina Faso.